18. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il y avait 9 enfants, mais Iris étant partie, il n'avait pas envie de parler, et encore moins de rire. George ne fit aucune plaisanterie. Hélène Sims mangea uniquement des cigarettes en sucre. Harry Cross revint du buffet avec une montagne d'œufs brouillés, accompagnée de bacon et de frites, qu'il engloutit sans lever les yeux de son assiette, comme quelqu'un qui accomplit un travail. Les jumelles, Greta et Gerda Wilcox, refusèrent de manger jusqu'à l'arrivée de Gladys, tout sourire, qui parvint à leur faire avaler quelques bouchées. L'attention qu'elle leur portait sembla les égayer. Il y eut même quelques rires. Luc envisagea de les prendre à part pour leur conseiller de se méfier de ce grand sourire, mais cela les effrayerait, et à quoi bon? À quoi bon? Cette phrase était devenue un nouveau mantra, et Luc savait qu'il ne devait pas raisonner ainsi. C'était déjà une façon d'accepter ce qui se passait. Or, il ne voulait pas s'aventurer sur cette voie. Pas question. Mais la logique l'emportait. Si les petites G se seraient réconfortées par l'attention de la grande G, c'était peut-être aussi bien. Néanmoins, quand il imaginait les fillettes soumises à l'épreuve du thermomètre rectal et aux lumières... « Qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda Nick. « On dirait que t'as mordu dans un citron. »«
Je pense à Iris. »
« Iris, c'est du passé, mec. » Luc le regarda d'un air étonné.
« C'est cruel. »
Nick haussa les épaules.
« La vérité est souvent cruelle.
Tu veux aller jouer au basket ?»«
Non. »«
Oh, allez. Je te laisse plusieurs paniers d'avance.
J'ai pas envie. »«
Tu te dégonfles ?»
Il n'y avait aucune animosité dans cette question. Luc secoua la tête.
« Ça me rendrait trop triste. Je jouais souvent au basket avec mon père. »
Il constata qu'il avait employé le passé et il s'en voulut.
« Ok, je comprends. »
Nick le regarda avec une expression de pitié que Luc trouva quasiment insoutenable, surtout venant de Nicky Willholm.
« Écoute, mec. »«
Quoi ?»
Nick soupira.
« Si tu changes d'avis, je suis dehors. »
Luc quitta la cantine et parcourut d'un pas traînant son couloir. « Encore une journée au paradis », proclamait l'affiche. Puis il s'engagea dans le suivant, qu'il avait surnommé mentalement « le couloir du distributeur de glaçons ». Ne voyant pas Maureen, il continua. Il passa devant d'autres affiches d'encouragement, d'autres chambres, 9 de chaque côté. Les portes ouvertes laissaient voir des lits sans drap ni couverture, des murs vierges, ce qui leur donnait l'apparence de ce qu'elles étaient réellement, des cellules de prison pour enfants. Il dépassa l'ascenseur et poursuivit son chemin devant d'autres chambres. Certaines conclusions s'imposaient, dont celle-ci. À une époque, l'Institut avait accueilli beaucoup plus de résidents, à moins que les responsables de ce projet aient péché par optimisme. Luc déboucha finalement dans une autre salle de détente, où l'homme à tout faire, prénommé Fred, passait une chamoisine en faisant de grands mouvements apathiques. Là aussi, il y avait des distributeurs de snacks et de boissons, mais ils étaient vides et débranchés. Dehors, à la place du terrain de jeu, il n'y avait qu'un carré de gravier, clôturé par un grillage, au-delà duquel étaient disposés plusieurs bancs, sans doute pour les membres du personnel qui souhaitaient prendre leur pause à l'extérieur du complexe. Un peu plus loin, à une cinquantaine de mètres, se dressait le bâtiment administratif peint en vert, l'antre de Madame Sixby, qui avait déclaré qu'il était ici pour servir.
« Qu'est-ce que tu fais ?»
demanda Fred.
« Je me promène. Je visite. »
« Y a rien à voir. Retourne d'où tu viens, va jouer avec les autres. »«
Et si je n'ai pas envie ?»
Cette réponse sonnait de manière plus pathétique que provocatrice, et Luc regretta ses paroles. Fred portait un talkie-walkie à la ceinture et un zapstick de l'autre côté.
« Retourne là-bas, je te le répéterai pas. »«
Ok, bonne journée, Fred. »«
Ouais, c'est ça. »
La chamoisine reprit ses grands mouvements indolents. Luc battit en retraite, stupéfait de la rapidité avec laquelle tous les principes qu'il tenait pour acquis concernant les adultes, ils étaient gentils avec vous si vous étiez gentils avec eux, pour commencer, avaient volé en éclats. Il s'efforça de ne pas regarder à l'intérieur de toutes ces chambres vides devant lesquelles il passait. Elles avaient quelque chose d'inquiétant. Combien d'enfants avaient vécu là? Que leur arrivait-il lorsqu'on les envoyait à l'arrière? Et où étaient-ils maintenant? Chez eux? « Mon curé !» murmura-t-il en regrettant que sa mère ne soit pas là pour le réprimander. L'absence de son père était une souffrance, l'absence de sa mère une torture. De retour dans le couloir du distributeur de glaçons, il vit le panier de linge de Maureen stationné devant la chambre d'Avery. Il glissa la tête à l'intérieur. Elle lui sourit tout en lissant le couvre-lit.
« Ça va, Luc ?»
Question idiote. Mais il savait que ça partait d'une bonne intention. Comment le savait-il ? Peut-être y avait-il un rapport avec le light show de la veille ? Maureen semblait plus pâle aujourd'hui, les rides qui encadraient sa bouche plus profondes. Luc pensa « Cette femme va mal. »
« Oui, très bien. Et vous ?»« Ça va. »
Elle mentait. Il le savait. Ce n'était pas une impression, c'était une certitude.
« À part que celui-ci, Avery, a mouillé son lit cette nuit. »
Elle soupira.
« C'est pas le premier et ça sera pas le dernier. Heureusement, ça n'a pas traversé la lèse. Allez, bonne journée, Luc. Porte-toi bien. »
Elle le regardait droit dans les yeux, d'un air rempli d'espoir. Mais cet espoir résidait derrière ses yeux. De nouveau, il pensa, « Ils m'ont changé. » Je ne sais pas comment et je ne sais pas dans quelle mesure, mais c'est sûr, ils m'ont changé. On m'a ajouté quelque chose. Il se réjouissait d'avoir menti au sujet des cartes et il se réjouissait qu'il l'ait cru, pour l'instant du moins. Alors qu'il ressortait dans le couloir, il se retourna et dit,
« Je crois que je vais aller chercher des glaçons. Ils m'ont donné des gifles hier et j'ai encore mal. » « Bonne idée, fiston, vas-y. »
Ce fiston lui réchauffa le cœur une fois encore et lui donna envie de sourire. Il alla chercher le seau resté dans sa chambre, vida l'eau des glaçons fondus dans le lavabo et retourna à la machine. Maureen était déjà là, penchée en avant, les fesses collées contre le mur en parpaing, les mains sur les tibias. Luc se précipita, mais elle le repoussa d'un geste.
« J'étire mon dos pour enlever les nœuds. »
Luc ouvrit la porte du distributeur de glaçons et prit la pelle. Il ne pouvait pas glisser un mot à Maureen, comme l'avait fait Kalisha, car s'il avait un ordinateur, il n'avait ni papier ni stylo. Pas même un petit bout de crayon. Et c'était peut-être aussi bien. Les messages pouvaient se révéler dangereux ici.
« Léa Fink à Burlington »,
murmura-t-il en piochant des glaçons.
« Rudolf Davis à Montpellier. Tous les deux ont 5 étoiles sur le site Legal Eagle. C'est un site de consommateurs qui note les avocats. Vous vous souviendrez de leur nom ?» Léa Fink, Rudolf Davis. Que Dieu te bénisse, Luc.
Il savait qu'il devrait en rester là, mais la curiosité l'emporta. Il avait toujours été curieux. Alors, au lieu de s'en aller, il se mit à marteler la glace avec la pelle, comme s'il voulait la briser. Ce n'était pas nécessaire, mais ça faisait un joli vacarme.
Avery dit que l'argent que vous avez mis de côté, c'est pour un enfant. Je sais bien que ça ne me regarde pas, mais... Le petit Dixon fait partie des télépathes, hein? Il doit être sacrément fortiche, même s'il mouille son lit. Il n'y a pas de pastiros sur sa fiche. Oui, exact.
Luc continua à agiter la pelle.
Eh bien, il a raison. J'ai fait adopter mon fils par le biais de l'église juste après sa naissance. Je voulais le garder, mais le pasteur et ma mère m'en ont dissuadé. Le sale type que j'ai épousé ne voulait pas d'enfant, alors je l'ai abandonné. Ça t'intéresse vraiment, Luc ? Oui.
Et c'était vrai. Pourtant, ils ne devaient pas parler trop longtemps. Si on ne pouvait pas les entendre, on pouvait peut-être les voir.
Quand j'ai commencé à avoir mal dans le dos, je me suis dit qu'il fallait que je sache ce qu'il était devenu, et je l'ai découvert. L'administration n'est pas censée dire où vont les bébés, mais l'Église conserve tous les dossiers d'adoption depuis 1950. Et je connais le mot de passe de l'ordinateur du presbytère. Le pasteur l'a noté sur un papier, sous le clavier. Mon fils n'est qu'à 2 villes de l'endroit où je vis, dans le Vermont. Il est en terminale au lycée. Il veut aller à l'université. Ça aussi, je l'ai appris. Mon fils veut aller à l'université. L'argent doit servir à ça, pas à rembourser les dettes de ce salopard.
Elle sécha ses yeux avec sa manche d'un geste furtif. Luc ferma la porte du distributeur de glaçons et se redressa.
« Prenez soin de votre dos, Maureen. »
« Promis. »
Et si c'était un cancer ? Voilà ce qu'elle pensait, il le savait. Au moment où il s'éloignait, elle posa la main sur son épaule et se pencha vers lui, tout près. Elle avait mauvaise haleine, une haleine de personne malade.
« Il n'est pas obligé de savoir d'où vient l'argent, mon garçon. Mais il en a besoin. Hé, Luc, fais ce qu'il te demande. Tout ce qu'il te demande. »
Elle hésita.
« Et si t'as envie de parler à quelqu'un... « De n'importe quoi. Fais-le ici. Je croyais qu'il y avait d'autres endroits où... Fais-le ici !»
répéta-t-elle. Et elle s'éloigna en poussant son panier.